Bonjour. Bon, bonjour. Donc, je vais vous présenter Dominique Drouet, ici présent, auteur de science-fiction et particulièrement d'anticipation politique. On a à peu près une heure. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à lever le doigt à partir des trois premiers quarts d'heure écoulés afin que vos questions soient prises en charge. Vous pouvez vous installer, il y a des tables, vous pouvez vous asseoir, restez pas debout, c'est un peu triste. Ah d'accord. Dominique, comment es-tu arrivé à la science-fiction? Quel a été ton parcours? Est-ce que tu peux rappeler ces éléments?
Oui, c'est tout à fait classique comme parcours. J'ai commencé à écrire de la science-fiction parce que j'en avais lu d'abord. J'en avais lu pas mal. Je crois que le premier livre de science-fiction que j'ai lu, c'était un bouquin de Wells que j'avais trouvé dans le grenier familial. Et puis ensuite, les choses se sont faites un peu par hasard. Il y a un hasard que je cite quelquefois parce que c'est quand même assez rigolo. Mais quand j'étais au lycée, on publiait un journal de lycéens, René Hauté. À l'époque, la Ronéo travaillait beaucoup. Celui qui, le principal responsable de ce journal, a eu dans l'idée de le faire imprimer. Et il est passé à une émission radiophonique de l'époque qui s'appelait Le rêve de votre vie. Et là, il a exposé qu'il publiait un journal de lycéens et qu'il aimerait bien le voir publier. Et Franquin, qui avait été tombé par hasard sur ce poste radiophonique, sur cet émetteur, je crois que c'était RTL, enfin Radio Luxembourg à l'époque, avait téléphoné immédiatement en disant bah, « je prends tout en charge ». Et il avait pris en charge non seulement la publication d'un numéro par les éditions Dupuis, mais également la couverture. Donc on avait eu une couverture dessinée par Franquin. Donc c'est dans ce journal que j'ai commencé à écrire des choses qui avaient... C'était un peu de la science-fiction, mais c'était vraiment très, très scolaire. Et puis, bon, ensuite, je pense que c'est le premier pas qui coûte. Et ensuite, je m'y suis remis plus tard, mais j'avais déjà un passé d'auteur derrière moi.
Donc, par la suite, tu commences à publier La présence du futur, tu obtiens plusieurs prix, tes romans se succèdent aux autres romans. Comment tu qualifierais cette période et qu'est-ce que tu as voulu faire, qu'est-ce que tu as voulu écrire et par rapport à quel groupe de personnes tu t'es déterminé? Je crois que ça a été très important pour toi, le contexte.
Oui, le contexte... C'est un problème de génération, mais le contexte, c'était 68. Hein, donc, effectivement, on nageait dans ces idées-là. Personnellement, j'avais un engagement politique qui n'a pas duré longtemps, hein, parce que je suis assez rétif à l'encartage, mais... Bon, j'ai eu aussi ce passé-là, mais je crois qu'à l'époque, c'était considéré comme un tout. C'est-à-dire que tout, a priori, c'était un peu dans le slogan de 68, mais tout était politique. Donc l'acte d'écrire était aussi un acte politique. Et tout naturellement, j'ai fait partie d'un petit groupe qu'à l'époque, on a appelé la nouvelle science-fiction française, en fait. Bon, je crois que je regrette, a posteriori, de m'être laissé embrigader là-dedans, parce que c'était une entreprise destinée essentiellement à valoriser ceux qui la dirigeaient, ceux qui étaient les dirigeants, oui, de réels dirigeants. Hein. C'est un peu comme l'histoire du surréalisme. Hein. L'histoire de la nouvelle science-fiction française, c'est une suite de directives et d'oukases. Voire, on a aussi éliminé
c'est le petit dessous de la politique.
Non, je pense que c'est plutôt là les dessous des mouvements littéraires. Quand certains veulent absolument prendre le pouvoir sur ce mouvement littéraire. C'est pour ça que je faisais référence aux surréalistes. Je pense que ce n'est pas le seul mouvement littéraire où on est assisté à ce genre de choses.
Mais malgré tout, l'engagement politique est extrêmement important pour toi dans ton écriture. Ce n'est pas une chose si commune. Enfin, on peut peut-être remarquer quand même qu'il y a beaucoup de science-fiction. Je la qualifierais d'esthétique, hein, j'exagère peut-être un peu, mais il est quand même assez particulier et assez notable et assez intéressant d'être un écrivain de science-fiction politique. Alors, il y a cette formation au départ. Pour toi, ça paraît naturel parce que tu étais dans une sorte, tu baignais dans un milieu très très politisé, très politique. Et comme tu dis, on est en 68, tout est politique. Mais malgré tout, est-ce que tu ne penses pas déjà que c'est déjà une posture assez particulière, assez intéressante ?
Alors, ça peut paraître particulier maintenant, hein, avec une quarantaine d'années quand même de recul. À l'époque, ça paraissait, tout à l'heure je disais qu'un des slogans, c'était « tout est politique ». Et prétendre que ça n'est pas que telle ou telle chose n'est pas politique, c'est faire une politique de droite. En fait, voilà, en gros, le raisonnement, bien sûr, je caricature, mais c'était quand même un peu ça.
C'est ça.
Oui, alors, quand tu sépares très nettement science-fiction politique et science-fiction peut-être plus esthétique, là, je m'inscris complètement en faux. Mais c'est vrai qu'au départ, les premiers textes que j'ai écrits étaient...
Il y a du larsen ?
Non, c'est que je faisais un peu limite au niveau son. Ah. Ça a baissé depuis le début.
Ça a baissé.
On n'entend rien ?
Si votre micro, c'est bien celui de...
Alors, on va changer le micro.
Ça va bien, celui de Dominique.
Alors, on va plutôt donner à Dominique
le micro.
Bah oui, non,
mais alors, attends, c'est
que... Non, mais moi, je parle assez fort.
Bon, est-ce
oui,
que ça
moi, il faut parler. En fait, les micros, il faut les tenir comme ça. C'est assez ridicule.
D'accord.
Voilà. C'est ça, comme si on était un chanteur de rock.
Bon. Tout arrive.
C'est mieux, oui.
Bon. Alors, oui, je parlais de science-fiction politique ou science-fiction esthétique. Et je pense qu'au début, quand j'ai commencé à écrire la science-fiction, j'étais tout à fait dans le genre, on a raté une utopie en 68, essayons de la décrire maintenant dans nos écrits. J'ai découvert les limites de ce genre, hein, parce que c'est du tract, c'est la guerre au-delà du tract. Et j'ai essayé petit à petit de réintroduire toute la dimension esthétique qui, je pense, manquait dans les premiers textes. Je ne suis pas le seul à avoir eu ce genre d'évolution d'ailleurs, hein, qu'on prenne la science-fiction politique des années 70, et on s'apercevra que d'ailleurs, dès le départ, certains auteurs, qui en général sont arrivés un peu après moi, avaient évacué la période de science-fiction tract. Bon, mais très vite, je me suis trouvé, là c'est un peu la petite histoire de la science-fiction de ces années-là, mais très vite je me suis trouvé en porte-à-faux par rapport au mouvement qui était dirigé d'une main de fer par une ou deux personnes. Et donc tout ça s'est terminé dans les colonnes des revues ou des fanzines par ce qui ressemblait étrangement à des règlements de compte. Voilà, donc pour moi, cette période-là, ce n'est pas obligatoirement une période très heureuse, et je ne la renie pas non plus, hein, parce qu'on a tous notre évolution, mais je me dis que j'aurais quand même pu éviter d'écrire un certain nombre de textes, parce que je pense que d'autres que j'ai écrits, je pense par exemple à la Passe-Temps, que j'ai écrit donc à la fin des années 70, sont aussi politiques que les textes que j'ai écrits vers les années 73-74.
La session va, on va lancer du coup sur l'impasse-temps. Voilà, donc je vous montre d'une main, je ne sais pas comment je vais faire, les deux ouvrages, non pas réédités, mais repris, reconstruits, réécrits, etc., avec une conscience aiguë, notamment des changements qu'on lui a présents, une volonté de garder certaines choses volontairement archaïques, comme l'absence de téléphone portable, dont on a dit qu'elle aurait flanqué en l'air complètement une des deux intrigues, hein, je n'en dis pas plus, parce que toute la difficulté là pour nous, ça va être de ne pas spoiler, comme on dit maintenant, les romans. Bon, je pense que c'est pas un problème. Alors, effectivement, la question que... Ce à quoi je pensais, c'est que l'ASF est porteuse, j'allais dire en soi-même, de tas d'espoirs que je qualifie de type politique de façon très large, c'est-à-dire qu'une espèce de force avant-gardiste qui est prête à sortir des vieux schémas, etc., et que c'est pas un hasard si aujourd'hui où le schéma politique est peut-être en train de changer, il porte d'autres choses hein, que le temps des années 70, malgré tout, là on est dans un effet de résurgence et de reprise et de retravail hein, sur ces œuvres. Donc, l'impasse-temps. Alors, Hélios, c'est la belle poche du Bélial de... Non, pas le Bélial. Ah, quelle horreur. Non, je me suis trompée. D'Actus. Non, pas quelle horreur. D'Actus, c'est moi qui me trompe. D'Actus, des moutons et de Mnemos. Et donc, sous couverture, les magnifiques couvertures hein, des moutons électriques, on a l'impasse-temps et Car les temps changent avec le fameux personnage de Léo le Lion et qui a été repris d'une façon complètement contemporaine. Alors, est-ce que tu pourrais parler de ces... Bon, peut-être on va commencer par Car les temps, si tu veux bien. Oui, parce que ce qui me frappe... Tu préfères commencer par l'impasse-temps.
Je préfère parce que, en fait, l'impasse-temps, cette version-là, c'est pratiquement... à quelques détails, mais infimes détails près, la version qui avait été publiée par De Noël en 78, je crois, ou 80, enfin bref, dans ces eaux-là. C'est-à-dire que j'ai relu plusieurs fois l'impasse-temps, je me disais qu'il fallait que je le retravaille, et au fur et à mesure des lectures, je me suis dit non, il ne faut pas que je revienne dessus. C'est un bouquin qui... L'histoire se suffit à elle-même. C'est pas la peine de rajouter des gadgets pour faire penser que l'action se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous avez déjà en bibliothèque l'impasse-temps dans la version de Noël, dans la collection Présence du futur, vous devez quand même acheter cet exemplaire-là, parce que c'est l'intérêt de tout bon bibliophile, de tout bon collectionneur. Mais vous retrouverez la même histoire. L'autre, Car les temps changent, là c'est tout autre chose, parce que Car les temps changent, à l'origine c'était une longue nouvelle qui constituait l'épine dorsale d'un recueil qui s'appelait 5 solutions pour en finir. Cette nouvelle donc, qui était saucissonnée en 5 épisodes m'a toujours laissé une impression de frustration parce que je me disais je ne suis pas allé jusqu'où j'aurais pu aller avec ce thème et que je ne déflorerai pas ici parce que justement il faut quand même laisser au lecteur potentiel le désir de prendre connaissance du livre. En plus de cette frustration, j'ai rencontré à plusieurs reprises des auteurs actuels qui écrivent depuis quelques années seulement et qui m'ont tous déclaré la même chose. Ils ne sont pas là, je ne dirai pas les noms, mais éventuellement, en tête à tête, je peux vous le donner. Non. Et tous, ils étaient trois, m'ont dit la même chose, c'est que le 5 solutions pour en finir, avait été l'un des déclics qui avait fait qu'il s'était mis à écrire. Je peux le dire parce que j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Mais les trois,
dis le nom, Wayne Newton. Comme dans les Aristochats, dis le nom, Wayne Newton.
Voilà. Donc je vais dire les noms. La première, c'était Jeanne Desbats, qui m'a dit ça à un moment où je me demandais si j'allais me remettre à écrire. Et je pense qu'elle a contribué au fait que je me suis remis à écrire. Il y a eu Lucie Chenu et tout dernièrement, donc c'est le dernier à dire ça, c'était Laurent Jennifer. Donc voilà trois auteurs qui, pour moi, sont des gens qui comptent beaucoup dans la science-fiction actuelle et qui m'ont dit la même chose. Donc ça m'a conforté dans ce désir de me remettre à ce récit. C'est ce que j'ai fait. Le résultat, c'est un roman court, parce que j'ai absolument refusé d'aller au-delà de ce que nécessitait l'histoire. J'aurais pu rajouter des péripéties pour en faire un bouquin plus épais. J'ai estimé que c'était le... Il y a toujours un problème, je pense, entre un thème et la longueur du roman. Il y a vraiment, je pense, un lien... Qui est au moins subjectif. Je pense que chaque auteur sent le moment où il tire à la ligne pour rajouter des pages. Donc là vous avez un roman qui est tout nouveau, parce que même si le thème est celui de cette nouvelle qui existait donc dans 5 solutions pour en finir, le traitement a complètement changé. Et puis, ce qui caractérise la nouvelle, c'est le fait qu'on ne peut pas multiplier les thèmes. Une nouvelle, il faut qu'elle porte directement au cœur du sujet, et parce que la longueur est très réduite. Un roman, je dirais que c'est l'inverse. Je ne sais plus qui disait que pour faire un bon roman, il faut qu'il y ait plusieurs histoires. Je pense que c'est la grande différence qui existe entre... excusez-moi, mais je n'ai pas l'habitude du micro. Oui, c'est la grande différence qui existe entre la nouvelle d'origine et le roman qui a été publié cette année par Elios.
Je dirais que ce n'est pas la seule différence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme une politique... De nouveau, ton intérêt politique, ton intérêt fondamental politique, qui sorti ses antennes dans des nouvelles directions... je ne sais pas si même toi, tu en as une conscience quand même autour des questions de genre, un approfondissement. Je pense à ces questions de genre parce qu'elles sont toujours un véritable levier politique, hein, fait bouger le genre, et c'est un peu comme les dominos, quand on tape comme ça et tout s'effondre, tout, il n'y a plus rien, c'est l'apocalypse générale, et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui me frappe entre les deux versions, c'est peut-être ce travail complètement contemporain sur des nouvelles formes de politique, alors même que tu as refusé absolument une certaine gadgetisation, je dirais. Donc ça, c'est très frappant d'avoir lâché ni le général de Gaulle, ni le téléphone pas portable, ni les modes de communication qu'il y avait à l'époque, comme on dit. Et du coup, même ça, ça donne une espèce de comme si c'était un archaïsme volontaire, enfin un effet vintage, je ne sais pas comment le dire, un effet travaillé, c'est volontaire. C'est pas... Tu aurais pu tout à fait moderniser au sens gadget, et tu ne l'as pas fait, et du coup ça crée quelque chose de volontaire, comme si d'un seul coup tu donnais à voir une époque passée, une politique passée, comme si elle appartenait déjà à une histoire. Ça crée une espèce de profondeur, parce que pour beaucoup, le général de Gaulle, c'est quelque chose qu'on voit sur les affiches de mai 68, mais c'est dire plus, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que tu as l'impression d'avoir, effectivement, car les temps changent, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de, j'allais dire, métalinguistique, je ne sais pas comment dire, quelque chose, c'est pas ce que je veux dire, quelque chose, les temps ont changé depuis le temps où tu as commencé à écrire les aventures de Léo Le Lion sous forme de nouvelles, et comment ça s'est développé par rapport à d'autres problématiques qui sont beaucoup plus contemporaines, comme le genre, par exemple, la question du genre.
Oui, alors je ne sais pas si c'est sensible pour le lecteur, hein, pour celui qui lirait la nouvelle d'origine et dans la foulée le roman, mais en fait c'est vraiment... vraiment plus qu'une remise à plat. Hein. C'est-à-dire que comment dire, les prémices étaient différentes. Effectivement, le contexte dans lequel j'écris ayant changé, il y a eu des répercussions obligatoires, immédiates dans la façon dont le récit a été écrit. Mais bon, il y a aussi un certain nombre de clins d'œil que j'ai voulu faire. J'espère quand même ne pas trop avoir appuyé là-dessus. Mais le décor de Carlette en change, ça pourrait être le décor d'un roman steampunk. Avec l'omniprésence des poutrelles de fer, des boulons, des rivets, tout ça, ça fait un décor. Et en fait, c'est vrai, alors là je pense que pour moi ça aurait été la facilité de dériver sur le steampunk. J'ai voulu justement brouiller là un peu les genres et m'en tenir à un roman qui est essentiellement un roman de science-fiction tel que je conçois la science-fiction, hein, c'est-à-dire plutôt une réflexion. En fait, la science-fiction, ça, pour moi, ça reste une réflexion sur le monde dans lequel on vit et tel qu'il préfigure le monde dans lequel on vivra dès demain. Voilà, je peux difficilement aller plus loin dans l'explication. Puis bon, ça fait un peu nombriliste de vouloir décrire dans quel état d'esprit on était quand on a écrit une histoire. En tout cas, là, j'ai été un peu poussé à la fois par des amis et par mes frustrations pour réécrire cette histoire. Et franchement, j'en suis content. Moi, j'en suis content.
Je pense qu'il a tout à fait raison dans le coup de temps. Parce qu'effectivement, alors donc, effet steampunk, non, il n'y a aucun effet steampunk au sens vis et boulons, petit gousset avec enfin, c'est pas du tout cet effet décoratif, justement. Mais oui, il y a, pour toi, science-fiction, t'as besoin ni de la science ni de la fiction. Dans le mot science-fiction, ça fait un peu couteau sans lame dont on a enlevé le manche. Pour toi, la science-fiction, c'est quelque chose d'essentiellement politique. Et pas du tout, il n'y a pas de prétexte scientifique, il n'y a pas non plus de prétexte fictionnel. Tu es en train de décrire le monde tel qu'il est, le monde comme il va, et le monde comme il pourrait être à partir des éléments que tu as aujourd'hui. Alors, c'est assez terrifiant si on se réfère à l'impasse-temps, ou est-ce qu'on peut dire que, libéré de ces deux obligations que sont la science et la fiction, est-ce que le destin du héros, qui peu à peu devient une personne absolument terrible, est engagé par cette posture? Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que tu peux dire sur ce héros qui devient, j'ai envie de dire, de pire en pire, sans vouloir spoiler encore une fois? On spoilie moins sur l'impasse-temps.
Non, je peux en parler, mais je crains qu'en parlant, en fait, j'affadisse le sujet. C'est-à-dire que mon thème de départ, j'ai toujours été très intéressé par les phénomènes de pouvoir, d'exercice du pouvoir, jusqu'où le pouvoir peut-il aller, jusqu'où peut-on aller dans le pouvoir plutôt. Et là, bon, c'est une fable classique, hein, sur le thème le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou. Bon, là, c'est pas la folie dont il s'agit, c'est une autre, c'est autre chose, mais c'est une métaphore de la folie.
Mais c'est aussi effectivement une métaphore du pouvoir, c'est ça que tu as voulu montrer, somme toute, que le personnage a de plus en plus le pouvoir. Oui. Est-ce que, pour poser la question en d'autres termes, pour toi, l'humain est-il méchant? L'humain est-il quelqu'un qui va toujours vers le plus mal ou le plus mauvais? C'est ce qui arrive au héros, mais est-ce que c'est quelque chose qui te semble...
Je suis un peu gêné pour en parler, parce que oui, j'ai vraiment aucun espoir
dans l'humanité,
dans l'âme humaine. Je dis que vraiment... D'ailleurs, je viens de relire un livre écrit il y a une dizaine d'années par Thérèse Delpech, L'ensauvagement. Et bon, le lisant, c'est un livre quand même qui porte quand même beaucoup sur l'actualité. Hein, et je me dis que les thèses soutenues par Thérèse Delpech à l'époque demeurent d'une très troublante actualité. Et voilà, j'ai un peu la même façon de voir les choses. Je pense que Thérèse Delpech ne partageait pas les mêmes idées politiques que moi, pas tout le temps, parce qu'elle a évolué. Mais je pense qu'en la relisant, je me dis qu'on avait, hélas, la même absence d'illusion sur l'humanité.
Oui, donc pour toi, l'humain, c'est un grand singe assez méchant, quoi. Un grand singe qui a réussi et qui est assez méchant, finalement.
Je ferais plus confiance à un grand singe qu'à
un humain. Alors, dans « Car les temps changent », il y a un moment étonnant où on voit un personnage qu'on croyait être un homme, et tout d'un coup, on voit que c'est une femme, et que les personnages changent naturellement aussi bien de genre, d'âge, de métier, de caractéristiques sociales, etc. Qu'est-ce que tu peux dire de ça ? C'est-à-dire que, de façon assez bizarre, le personnage croit avoir retrouvé, c'est bien ça, je ne suis pas en train de me tromper, une femme qu'il a connue avant, puisque lui est le seul à se rappeler ce qui s'est passé avant, et en fait, elle est devenue autre chose, un enfant ou un homme, je ne me souviens plus très bien. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu crois que ça veut dire qu'on détermine finalement le gender, le genre d'une personne par rapport au regard qu'on porte, un regard qui serait dès lors entièrement social et qui n'aurait rien à voir avec quoi que ce soit d'autre ?
Oui, tout à fait. Je pense que l'individu est façonné par la société sur tous les plans. Hein, y a des modèles sexuels qui existent et il faut s'y conformer. Je vais m'en prendre un peu, aux femmes, mais je me souviens d'une chanson de...
Pas Michel Sardou.
Non, mais attends. Zut, alors, le nom m'échappe. Renaud. Une chanson de Renaud qui était sur le thème l'homme est mauvais, les hommes sont mauvais. Parce que c'est toujours les hommes qui, dans l'histoire, ont créé des catastrophes. Les femmes, non, sauf Madame Thatcher. C'était le thème de sa chanson. Bah, je regrette. Je pense que la société est bien faite de ce point de vue-là. Il y a une égalité. Et je pense qu'il n'est pas dans l'âme masculine ou l'âme féminine, telle que les caractérise
la
vie sociale, il n'est pas dans ces deux âmes d'avoir des caractéristiques pour l'un la méchanceté, l'égoïsme, et pour l'autre au contraire certaine facilité à vivre en société. Voilà, je pense que c'est la société, c'est un certain nombre de forces qui agissent au sein de la société. Alors, ces forces, c'est souvent les forces de l'argent, hein, mais je pense qu'il faut quand même être précis. Les forces de l'argent, enfin, forces politiques, mais qui façonnent les individus, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes.
De toute façon, il y a une différence entre la réalité historique et le discours qui est fait sur n'importe quelle réalité historique. Nos préjugés d'aujourd'hui font que la réalité historique est toujours décrite en termes de guerre, de roi, de prince, etc., avec une forte domination du thème 1, masculin, 2, colonialiste, 3, capitaliste, 4, etc., etc., et qu'on n'est pas obligé non plus. C'est-à-dire qu'on peut à un moment se décoller de ça. Hein. Valérie disait... il n'y a que les huîtres et les sceaux qui adhèrent. Hein. C'est vraiment ça le problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'adhérer au discours historique en croyant que c'est l'histoire. D'une part, il y a l'histoire, mettons, et puis d'autre part, le discours, qui est celui qu'on plaque d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est si intéressant, la science-fiction. C'est aussi une façon de plaquer un discours d'aujourd'hui, enfin de projeter un discours d'aujourd'hui qui n'est pas un discours mainstream, hein, qui n'est justement pas un discours où tout le monde hurle avec les loups, enfin où les loups hurlent avec les autres loups, et plaquer, d'avoir cette possibilité de parler à contre-courant, c'est finalement ce qu'offre la science-fiction. Est-ce que tu as l'impression que c'est ça la force, qui serait celle de la science-fiction ?
Je serais tenté de répondre par l'affirmative, mais bon, j'écris de la science-fiction. Je ne dis pas de la science-fiction, mais je lis quand même beaucoup de science-fiction. Donc je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en juger. Il y a sans doute d'autres genres littéraires, d'autres façons de s'exprimer dans les arts qui portent autant que la science-fiction. Mais c'est vrai que la science-fiction occupe quand même, à mon sens, une part privilégiée dans la mesure où elle fait la part belle à l'imagination. Donc elle libère un peu tout un tas de choses qui sont en nous et dont on ne s'aperçoit pas obligatoirement qu'elles ne viennent pas de nous, mais de la société qui nous entoure.
Oui, et c'est le cas pour cette affaire de personnes qu'on voit qui sont des enfants, mais qui ne sont pas des enfants, qui sont des femmes, mais qu'on voit brusquement comme des hommes, ou qui sont des hommes qu'on voit comme des femmes. Tu essaies de montrer ici, finalement, une sorte de fluidité qui pourrait être celle de la société si elle n'était pas obsédée par ces petites cases, hommes, femmes, noirs, blancs, etc., etc. C'est quelque chose que tu essaies finalement de montrer à travers la science-fiction et qui relève de quelque chose de totalement contemporain. Hein. C'est une perspective totalement contemporaine. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne sais pas, ce matin, il y avait quelqu'un qui disait d'un ton triste « Ah, tout est fini, on n'a plus rien à espérer, etc. » Et j'étais en train de penser au cyborg d'Haraway, tout simplement, la cyborg, hein, qui est quoi ? C'est quoi la cyborg d'Haraway ? C'est une fille qui travaille sur des machines, qui est en train de... C'est des zones franches industrielles, c'est épouvantable. C'est la pauvre fille qui monte des iPads dans des zones industrielles. Et pourtant, selon Haraway, cette fille-là, elle est l'espoir, elle a plus d'espoir que le patriarcat traditionnel enfermé avec la famille hiérarchisée, etc., etc. Donc finalement, parce que la science-fiction que tu écris, alors ils t'ont qualifié, je crois me souvenir, sur le papier, vous avez vu, c'est Dominique Doué, un ciel sans nuages. Vous avez vu ça? Alors, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord que Dominique Doué est un ciel sans nuages, il lui-même se voit comme un ciel sans nuages, mais il me semble que le moment où le pauvre Léo est au fond du trou, si j'ose dire, et il ne touche que des parois fermées et le fond du monde, il a atteint le fond du monde, et alors c'est le seul moment un peu steampunk, puisqu'il essaie de trouver des boulons, dans la paroi, et il n'y a plus de boulons, il n'y a plus rien, il est dans la paroi, il ne peut plus en sortir. C'est comme si la Terre elle-même était devenue un tombeau, il s'est enfoncé dans les souterrains, et il arrive au souterrain ultime, celui où la machine humaine recycle sa viande, si on peut dire. Bon, là, on est dans quelque chose d'extrêmement noir. Est-ce que vraiment, on peut dire que c'est un ciel sans nuages, des choses comme ça ?
Non,
c'est pas responsable de cette formulation.
Non, je crains que l'auteur de Céline se soit trompé d'auteur, justement. Non, je n'ai pas pour prétention d'écrire des choses sans nuages. Non, je pense que tu as tout à fait raison.
Quand on est dans les bas-fonds urbains à ce point, il n'y a plus de ciel, et s'il y a un ciel, il est carrément très très nuageux. Donc c'est ça que je voulais mettre en évidence.
Cela dit, même dans les étages supérieurs de ce Paris qui est construit comme une sorte de tour Eiffel, en fait, tout en haut, à l'endroit où se trouve l'Arc de Triomphe, on ne voit pas de ciel.
On t'entend plus.
Ah, pardon.
Oui, il disait que même dans ce monde construit comme une tour Eiffel, je translate du Dominique Doué en direct. Vas-y, redis-le. Donc, tu as dit que tu étais construit un monde vraiment d'une terrible verticalité. Hein. C'est ça que tu voulais dire?
Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que, parce que Anne avait parlé uniquement des étages inférieurs de cette ville construite toute star d'une tour. Mais en fait, tout en haut, il n'y a pas plus de ciel qu'en bas. C'est-à-dire que le ciel, on ne le voit jamais. On ne le voit jamais. Tout simplement parce qu'il n'existe pas, en fait.
Alors ça peut s'entendre de différentes façons. Si le ciel n'existait pas, autrement dit, on n'a rien à attendre d'un Dieu sauveur qui viendrait nous libérer. Soit tu veux dire par là que la perspective de l'humain est complètement noire, enfin, est complètement sombre. Est-ce que tu penses que... est-ce que tu es d'accord qu'il y a une certaine désaffection actuelle envers le genre de la science-fiction? Et si tu es d'accord là-dessus, est-ce que tu crois que c'est parce que la vision du monde assez horrible que véhicule souvent la science-fiction serait en cause?
C'est possible. Alors là, moi, j'ai pas de... Je pense que d'autres auteurs ou éditeurs seraient mieux à même que moi de vous parler de ça. Non, en plus, il faudrait faire une distinction entre science-fiction littéraire, la science-fiction au cinéma, deux choses qui ont quand même...
Je pense que c'est une question de support aussi.
C'est une question de support. Oui. Moi, je pense que la science-fiction est un genre difficile parce qu'il faut qu'il... certes, il faut avoir des auteurs comme l'imagination, mais je pense qu'il faut des lecteurs qui aient beaucoup d'imagination aussi. Parce que la science-fiction est un genre qui fonctionne par ellipse. Tout décrire, ça serait fastidieux pour tout le monde. Donc, on part de... Il y a des présupposés en science-fiction qui servent de support à l'imagination, du lecteur. Et pour celui qui ne possède pas ces présupposés, bah, il y a carrément une impossibilité de rentrer dans le récit.
Quand il s'agit d'un récit écrit, quoi.
Oui. Donc, je parlais de la science-fiction, genre littéraire. La même difficulté n'existe pas au cinéma.
Oui, puisque le décor, par exemple, est pris en charge. Est-ce que ça te donne envie de... Enfin, t'as envie de changer de médium?
Ah non, hein. Non, mais bon, soyons clairs. Hein. À mon âge, j'ai plus besoin de gagner ma vie avec ce que j'écris. Donc j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Mais c'est vrai que si j'avais besoin de gagner ma vie avec l'écriture, bah, soit j'écrirais des livres beaucoup plus faciles d'accès, soit j'écrirais, je sais pas, des scénarios pour le cinéma ou la télévision.
Il t'est arrivé de gagner ta vie grâce à l'écriture? Il y a eu une époque bénie où tu gagnais sa vie grâce à l'écriture?
Non, jamais, mais j'ai jamais essayé. L'un de mes meilleurs amis, c'est Jean-Pierre Andrevon. On se connaît depuis des décennies. Et lui a toujours vécu de l'écriture. Plus ou moins bien. Moi, je lui tire mon chapeau parce qu'il a eu ce courage de prendre des risques au jour le jour pour, et sans concession. Bon. Jean-Pierre a fait quelques boulots alimentaires, enfin, toujours dans l'écriture, hein, mais par exemple pour des quotidiens, pour assurer quand même le pain quotidien, mais il n'a jamais fait de grandes concessions. Bon, moi j'ai fait un autre choix, c'est celui d'écrire quand j'en avais envie, ce qui fait que je me suis arrêté très longtemps d'écrire parce que j'en avais plus envie.
Alors si on revient un peu sur cette période où tu t'es arrêté d'écrire, malgré tout c'est une période où tu n'as pas cessé d'avoir une activité de type politique d'une certaine façon, c'est-à-dire que finalement le fil rouge de ton travail politique a toujours continué au-delà de cette période.
Non, je pense que c'est une erreur de considérer ça. Ce qui m'intéressait, je le répète, c'était le phénomène du pouvoir. Donc, quand j'en ai eu l'opportunité, je me suis dit que ça valait le coup de tenter l'expérience de l'intérieur. C'est une expérience qui n'a pas duré longtemps, qui a duré 2 ans. En deux ans, je me suis aperçu que finalement, le phénomène du pouvoir ne m'intéressait pas assez pour que je m'y investisse vraiment. Et j'en suis, je ne me suis jamais présenté à des élections, par exemple, alors que ceux qui, comme moi, avaient participé à des cabinets ministériels à une époque donnée, la plupart ont ensuite, enfin la plupart non, mais ils sont quand même assez nombreux à avoir opté pour une carrière politique. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas. Et puis, jamais, la politique quotidienne n'a correspondu à ce que j'aurais voulu. Donc à partir d'un certain moment, bon, je ne renie rien de ce que je pensais, mais bon, on cautionne ou on ne cautionne pas. C'est un bien grand mot, hein, parce que je ne sais pas. Moi, alors pour être plus précis, j'ai adhéré à un certain parti à un moment où son discours, qui était très, très influencé par 68, reprenait les discours de François Mitterrand de la première partie des années 70, et vous avez carrément de Che Guevara. C'était le romantisme absolu dans les discours. Je ne dirais pas que j'y ai cru, parce qu'on rêvait tous. On était tous dans... Bon, 81, la gauche arrive au pouvoir, quelques mois d'effervescence, et puis tout retombe, parce que les réalités sont là. Les réalités, bah, il faut bien se colter avec. Moi, à l'époque, j'étais dans un ministère stratégique, puisque c'était le ministère de la communication. Je pense très sincèrement que Georges Feydeau, qui était le ministre de la communication de l'époque, a fait ce qu'il fallait faire avec les moyens qu'il avait. C'est-à-dire que c'est quand même à lui qu'on doit d'avoir coupé le cordon ombilical direct qui existait entre le pouvoir politique et la télévision. Il a mis en place des instruments de régulation qui devaient permettre justement aux médias audiovisuels d'échapper à la tutelle politique. Mais tout ça, dans l'incompréhension la plus grande, qui est-ce qui tapait le plus sur ce ministre? C'était ses anciens collègues journalistes, de droite ou de gauche, tous confondus. Et je pense que c'est une incompréhension qui a expliqué qu'il n'y ait pas. Je ne suis pas sûr que le politique ait eu pour véritable projet de bouleverser la société. C'était un peu ce que je rêvais, mais sans y croire véritablement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout a été fait. Je pense que ce qui est sûr, c'est que tout a été fait, sciemment ou non, pour que finalement rien ne change, ou très peu de choses changent. Ça, c'est, je parle de ça, donc c'était bien ciblé. Hein, c'était dans les années 80 où il n'y avait pas les pressions qui peuvent s'exercer, les pressions mondiales, hein, les pressions à l'international, qui peuvent s'exercer à l'heure actuelle sur un pays et donc sur les élites politiques de ce pays. Voilà. Alors, je vous livre là l'état de ma réflexion, qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne prétends pas à l'universalité, mais tout ceci pour expliquer que j'ai été mêlé quand même à un niveau subalterne à la vie politique, mais je ne me suis jamais senti engagé par celle-ci. J'avais envie de faire des choses, je me suis aperçu que pour des raisons diverses, ce n'était pas possible. j'ai fait autre chose.
Donc, si on résume, pendant ce temps-là, tu découvres finalement, j'ai envie de dire comme Montesquieu, que l'exercice de pouvoir est par définition un abus de pouvoir. Enfin, tout pouvoir est abus de pouvoir. Hein, donc, ça date du XVIIIe siècle, mais c'est encore valable. Et tu ne trouves pas, avec ce qui se passe socialement, toi qui es très tissé avec ce qui se passe socialement pour ton écriture, pour qui c'est important cette résonance, tu ne trouves pas à ce moment-là de résonance suffisante. C'est-à-dire, à la fois, tu te dis, bon, le pouvoir ne m'intéresse pas en soi, mais la puissance de l'écriture, à ce moment-là, ne vient pas pour toi, disons, c'est pas le moment. Quoi. Quelque chose dans, socialement ne marche pas, ne t'inspire pas. Et en 2014, en 2013, 2014, enfin, le temps de même un peu plus, là, il se passe quelque chose qui, pour toi, fait que tu peux de nouveau revenir sur scène, tu as des choses à te dire. Et c'est ça qui est intéressant, peut-être, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui fait que tu ressens, je ne sais pas comment le dire, cette espèce de, j'ai failli dire le petit vent frais, hein, ça fait un peu Lénine sur les bords, mais quelque chose qui bouge comme ça, une sorte de, comment ils ont dit, un ciel sans nuages, quelque chose qui poussait un peu ces nuages, comment quelque chose qui bouge. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui bouge. Comment tu définirais ce qui bouge aujourd'hui?
Pour définir réellement ce qui bouge, je pense qu'il faudrait examiner un à un les éléments qui ont la tremblante.
Voilà, c'est ça.
Mais bon,
la tremblante des moutons, je fais une blague, des moutons électriques, c'est débile.
Et ça, bon, il m'est difficile de répondre à ta question parce que c'est un ensemble, c'est un faisceau de choses qui ont fait que je me suis remis à écrire. Si j'ai cessé d'écrire dans les années... Le dernier bouquin que j'avais publié était sorti en 90. Donc ça faisait un certain nombre d'années que j'avais arrêté. Si j'avais arrêté, c'est qu'il y avait un certain nombre de choses qui avaient joué. Le fait que, comme je le disais tout à l'heure, l'expérience de la science-fiction française de l'époque ne satisfaisait pas du tout. C'était une histoire de... Pour moi, c'était un peu une histoire de désamour. Je n'avais plus l'envie d'écrire. Et donc, comme je n'avais pas le nerf de la guerre qui m'obligeait à écrire pour gagner ma vie, j'ai arrêté. Et si je m'y suis remis, c'est justement parce que, petit à petit, je me suis dit, tiens, mais... Et le déclic, en fait, c'est un truc idiot. Hein. J'avais un ami très, très proche, Patrice Duvic. En fait, c'était l'un des...
On entend bien.
Oui,
non, parce que le micro a tendance à baisser.
Mais c'est moi qui baisse le micro. Oui, je parlais de Patrice Duvic, qui était un très bon ami. Et c'était lui qui assurait, qui me tenait au courant d'un peu de ce qui se passait dans le milieu de la science-fiction. Et Patrice Duvic est mort et il avait toujours eu dans l'idée de me remettre à l'écriture. Et il se trouve que peu de temps avant de mourir, il m'avait quasiment fait promettre de m'y remettre. Ce qui fait que j'avais une sorte de contrainte morale. Et peu de temps après la mort de Patrice, j'ai envoyé une nouvelle à fiction. Et puis, dès lors, le mouvement et le désir étaient revenus. Et donc, je me suis remis réellement à écrire.
C'est extraordinaire, parce que c'est un fait purement personnel. C'est-à-dire, pour quelqu'un de si fortement entretissé avec le social, avec la tremblotte du social, ce qu'on sent bouger comme dans le social, et tu viens de donner une raison qui est entièrement personnel. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Dominique? Non?
Par le capitalisme,
pour nous faire adhérer à une politique. Non, mais si, c'est intéressant. C'est...
Et donc, cette idée qu'on n'aurait pas le choix et qu'il n'y a pas d'autre monde possible, c'est avec celui-ci qu'il faut traiter. Et il n'y a que ça à faire, qu'il n'y a qu'une solution. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on essaie de vendre. Et donc, l'idée que l'humain est mauvais et qu'il n'y a pas d'autre monde possible parce que l'humain est mauvais. Et je me demandais si la SF pouvait nous sortir de là.
Oui, alors, a priori, à un moment donné, par exemple, au moment actuel, là, je dirais, oui, l'homme est mauvais. Ensuite, je m'interroge, pourquoi est-ce qu'il est mauvais? Alors, je ne crois pas non plus au bon sauvage. Je ne suis pas du tout rousseauiste. Le bon sauvage, non. Moi, je serais plutôt... comment s'appelait Golding, là, Sa Majesté des Mouches. Je pense que l'individu, il faut quand même. Je pense que l'homme est devenu moins mauvais grâce à la société. C'est la société qui a policé. C'est un mauvais terme, mais c'est un peu ça. Hein. La contrainte de la vie en société a fait que un certain nombre de choses n'étaient plus possibles. Boulotter son voisin, donc ça se fait plus, quoi.
Ça dépend du milieu, là encore.
Ça dépend si c'est métaphorique ou réel. Justement, tiens, le phénomène de cannibalisme, c'est quand même un des éléments qui ont fait que je me suis dit, mais c'est pas possible. Tout ce en quoi j'avais cru à un moment donné, dans les quelques années qui ont suivi 68, s'écrouler. C'est-à-dire qu'on a appris un jour que dans je ne sais plus quelle province de Chine, au moment du... c'est pas le grand bond en avant, c'était la révolution culturelle, eh bien, le cannibalisme était devenu la règle. Quand on voulait grimper les échelons dans le parti, il fallait pratiquer des actes de cannibalisme. Et ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'il y a toujours une mécanique à l'œuvre là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on en est venu à bouffer les gens vivants. Parce que c'était des ennemis du peuple et qu'il fallait qu'ils souffrent avant de mourir. C'est des choses. Bon, je n'ai jamais été maoïste, mais quand même, je me disais qu'il y avait un certain nombre de choses. Il faut se rappeler un peu de la presse, de la presse d'extrême gauche du début des années 70, où on encensait le maoïsme, ce qui se passait dans la Chine de Mao, où le paysan d'hier pouvait se retrouver dirigeant du Parti communiste le lendemain, où les élites universitaires se retrouvaient à sarcler les champs. Bon, tout ça, c'était bien, c'était la l'égalité en œuvre. Et puis, donc on s'est aperçu que la réalité était bien autre chose. Il y a eu tout ce qui a été révélé sur la Chine. On a révélé aussi les mêmes choses sur l'URSS, sur le Soljenitsyn. Hein, et puis, bon, c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses auxquelles on se rapprochait qui sont tombées. Moi, je garde, j'ai beaucoup d'admiration pour le poète qui était Aragon, mais quand même il faut quand même se rappeler de tout ce qu'il a pu écrire pour justifier des choses qui n'étaient pas justifiables, y compris sur le plan scientifique d'ailleurs.
Mais il a eu quelques problèmes avec son ami Breton, qui, contrairement à ce que tout le monde croit, n'est pas entré dans une espèce de logique à faire tourner les tables tournantes et à devenir une espèce de fou ésotérique, mais est allé au contraire du côté de l'extrême gauche et de Trotsky.
Oui.
C'est pas à moi de poser des questions. Quelqu'un a envie de poser une question? Encore une question?
Oui, j'avais envie de demander, maintenant que cette envie est revenue, est-ce que, à part les rééditions, de la réécriture, etc., est-ce qu'il y a entre guillemets, du vrai nouveau pour bientôt. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Dominique Doué, là, maintenant?
Bon, bah alors, pour l'instant, le vrai nouveau, mais encore une fois, pour moi, Carnet en change, c'est du vrai nouveau. Non, le nouveau, totalement nouveau, il y a un certain nombre de nouvelles qui sont sorties ici ou là. Et puis, il y a un roman que j'espère bien finaliser prochainement et qui devrait paraître, m'a dit le directeur des moutons électriques, en septembre prochain, donc dans un peu moins d'un an.
Tu peux en parler un peu? Tu peux annoncer? C'est la question, quels sont tes projets? Est-ce que tu peux parler un peu de ces romans ou pas encore?
Oh, c'est difficile parce que c'est difficile. C'est d'abord pour moi, c'est difficile de synthétiser un certain nombre de choses qui pour l'instant sont un petit peu disparates. Et puis, c'est surtout pour vous parce que décrire en quelques mots tout ça, c'est. Je pense que ça vous donnerait autant de frustration qu'à moi. Disons que je reste très, très intéressé par tout ce qu'on a dit de la problématique dickienne, voilà, sur la réalité de la réalité. Voilà, je peux difficilement aller plus loin.
La problématique, t'as dit quoi? Donc voilà, à la question quels sont tes projets, Dominique a brièvement répondu. Est-ce que vous avez encore une autre question? On a encore 2-3 minutes éventuellement. Bon, sinon, on peut remercier Dominique pour cette. Donc c'est excellent.